Chapitre 17, la dernière affaire du colonel. Le colonel était de ces hommes qui ne s'étonnent de rien. Il avait bravé en sa vie tous les dangers, excepté peut-être ceux qu'on rencontre sur les chemins de la gloire. Dans une confrérie de gens résolus, froidement et absolument, il passait, à bon droit, pour le plus résolu de tous. Ce sang-froid l'avait fait chef d'un clan mystérieux qui vivait de guerre et qui vivait bien. « Mais on n'est pas parfait, dit le proverbe. Ce conquérant, dont la ténébreuse puissance tenait en échec la police de la Restauration, ce souverain, ce pape de la religion des bagnes, ce demi-dieu, fort par lui-même et par l'association énorme dont il résumait en lui les forces, devenait faible comme un enfant devant Mademoiselle Fanchette, petite fille de 10 ans, dont il était l'aïeul. Il se tourna vers Monsieur Lecoq et, le voyant blême d'effroi et de colère, il sourit avec triomphe. Hein, « L'amitié, murmura-t-il, quel démon, par où a-t-elle passé? Y en a-t-il deux comme cela dans Paris ?» Monsieur Lecoq haussa les épaules. Fanchette les regardait en face, tour à tour. Ses grands yeux hardis brillaient étrangement parmi la pâleur de son visage. « Range-toi, dit-elle à Lecoq, je veux voir le mort. » « Cela ne se peut pas, commença Lecoq. La petite taille de Fanchette se redressa si raide que le grand-père eut un sourire d'orgueil. « Quel démon » répéta-t-il. « Range-toi !» ordonna pour la seconde fois Mademoiselle Fanchette. Comme Lecoq n'obéissait pas assez vite, les yeux de l'enfant brillèrent et sa voix trembla pendant qu'elle disait « Grand-père est le maître et tu n'es qu'un valet, toi, l'amitié. Range-toi !» En même temps, elle l'écarta d'un geste de reine et passa. Lecoq fit un mouvement pour la retenir, mais le colonel joignit les mains, disant avec la naïve admiration des grands-papas « Où nous mènera-t-elle? Ah, quel démon !» La fillette était déjà en contemplation devant le mort. Au premier aspect, on eût pu croire que la vie du mort éveillait en elle un souvenir. Elle le considéra longtemps en silence, mais sans autre émotion apparente que la surprise. « C'est drôle, dit-elle, ça ressemble à ceux qui dorment. »« As-tu fini, Fanchette ?» demanda le colonel. « Non, explique-moi, celui-là ne dort donc pas ?»« Aussi fait, chérie, » repartit le vieillard, dont la voix était grave malgré lui. « Seulement, il ne s'éveillera plus jamais. »« Ah, fit-elle, plus jamais !» Sa tête s'inclina sur sa poitrine. Autour de son front et dans ses yeux, il y avait des pensées au-dessus de son âge, mais sa parole était d'un enfant. Involontairement, les deux spectateurs de cette scène suivaient sur son visage la marche de ses impressions. « Il était tout jeune, reprit-elle, je trouve qu'il était bien beau. » Là-dedans, aucun symptôme de sensibilité ne se montrait, c'était purement une opinion. Et pourtant, le caractère de sa physionomie changeait. Son regard, moins mutin, trahissait de vagues rêveries. « Oui, oui, dit le colonel, le pauvre diable était joli garçon. » Elle se tourna vers lui, mais poursuivit son examen. « Sortons, insinua Monsieur Lecoq. « Pas encore, fit-elle. Je ne me figurais pas que la mort était comme cela. » « Quel raisonnement pour son âge !» admira le grand-père. « Il y a des cheveux blancs parmi ses cheveux noirs, » reprit la fillette avec étonnement. « Est-ce que les jeunes gens ont des cheveux blancs quelquefois ?»« Quand ils ont éprouvé beaucoup de chagrin, » commença le colonel. « Ah ! » s'écria-t-elle en relevant la tête avec une soudaine colère. « On lui a donc fait beaucoup de chagrin ?»« Allons, trésor, allons !» ordonna le vieillard. « Tu l'as regardé assez. » « Non, répliqua franchement Fanchette, j'ai ouï dire qu'on mourait de chagrin. »« Qu'est-ce que cela te fait ?» voulut objecter Monsieur Lecoq, dont la mauvaise humeur augmentait. Les yeux énormes de l'enfant se fixèrent sur lui. C'est toi qui lui as fait du chagrin, prononça-t-elle tout bas, avec un étrange accent de menace. L'embarras naissait dans la contenance du colonel. Fanchette reporta ses regards sur le mort. « Je suis fâchée d'être venue, murmura-t-elle d'une voix tremblante. Je n'ai jamais été si triste de ma vie. » « C'est pour cela qu'il faut en venir, dirent ensemble ses deux compagnons. « Non, je ne veux pas m'en aller, quelque chose me retient. « Es-tu bien sûr, père, qu'on ne pourrait l'éveiller ?»« Que lutteux !» s'écria monsieur Lecoq. Et le vieillard, plus calme, « Très sûr, petite fille. » Fanchette soupira. « Si j'essayais, pensa-t-elle tout haut, en lui faisant mal, bien mal. « On ne fait pas de mal à une pierre, dit monsieur Lecoq. » La fillette lui jeta un regard de rancune et demanda, en s'adressant à son aïeul, « C'est vrai que les morts sont comme des pierres ?»« Tout comme, répliqua le vieillard. » Fanchette saisit le bras d'André. Ce contact lui donna un frémissement. Pourtant, elle murmura, « Non, ce n'est pas tout comme. Les pierres sont froides et dures. » Son teint s'était animé légèrement. Elle souleva le bras d'André à deux ou trois reprises. La troisième fois, le bras d'André lui échappa et retomba inerte. Elle recula de plusieurs pas. Le coq venait de dire tout bas au colonel « S'il s'éveillait !» Le colonel, en sa vie, avait soulevé des montagnes. Dans le ténébreux pays où il était roi, la faveur n'existe pas. Chaque coquin vaut juste sa valeur vraie, et nous saurons bien quelque jour ce que valait au juste l'habit noir, ce bandit déguisé en bon bourgeois. Quoi qu'il en fût, cependant, et quoi qu'il pût faire, le colonel n'était pas capable d'emmener la petite Fanchette malgré elle. Il fallait saisir l'instant. Dès que Fanchette se fut éloignée du lit, monsieur Lecoq et le colonel s'emparèrent d'elle, disant « Voilà ce que c'est de toucher aux morts !» Ils l'entraînèrent vers la porte. Fanchette se laissa faire sans mot dire. Les longs cils de sa paupière voilaient son regard incertain. Nul n'aurait pu deviner quelle réflexion passait dans cette petite tête qui jamais n'avait remué que des pensées d'espièglerie et de caprice. À deux pas du seuil, elle s'arrêta et repoussa brusquement la main de monsieur Lecoq. « Toi, s'écria-t-elle, je te déteste !» Et sautant au cou du colonel, « bon papa, je suis sûr qu'en le battant, on l'éveillerait. « Chère Follette, balbutia le vieillard, ému par cette caresse. » Fanchette n'en abusait pas, et pour un baiser d'elle, le colonel aurait fait des extravagances. Elle se redressa, grandit, et cambrant la gracieuse hardiesse de sa petite taille. « Je veux essayer !» déclara-t-elle. Le coq et le colonel firent le même mouvement pour la retenir, mais elle glissa entre leurs mains comme une anguille. Quand ils purent la rejoindre auprès du lit, sa fantaisie était satisfaite. Par deux fois, et avec une incroyable violence, sa petite main crispée, convulsivement, avait frappé le mort au visage. Le colonel arriva juste à temps pour la recevoir entre ses bras, où elle tomba, demi-pâmée. Sur la joue livide d'André Ménotte, deux marques bleuâtres ressortaient, dessinant deux fois les cinq petits doigts de Fanchette. Elle fixa ses grands yeux désolés sur ces marques. Tout son sang lui monta d'un coup au visage pour céder bientôt la place à une pâleur plus mate. Ses larmes jaillirent abondamment et un spasme fait de sanglots souleva sa poitrine. « Je l'ai blessé, tu vois bien » cria-t-elle d'une voix entrecoupée. « Tu vois bien que je l'ai blessé !» Ses deux compagnons restaient muets d'étonnement. Monsieur Lecoq serra le bras du colonel. Une imperceptible contraction venait de crisper les lèvres d'André Ménotte. Il fallait hâter brusquement le dénouement. Monsieur Lecoq enleva Fanchette dans ses bras et s'élança vers la porte. D'instinct, Fanchette eut résisté, mais l'émotion la brisait. Monsieur Lecoq disait « Tu as beau me détester, fillette, je ne veux pas que tu te rendes malade. » Le colonel approuvait, secouant sa vénérable tête blanche. C'était plausible, et rien dans cette paternelle violence qu'on lui faisait n'excitait la défiance de Fanchette. Monsieur Lecoq touchait déjà le seuil quand il la sentit tressaillir. Il voulut passer outre, mais les deux mains de l'enfant, qui tout à coup reprenaient sa précoce énergie, s'accrochèrent au montant de la porte. « Il remue » cria-t-elle, folle qu'elle était de joie. « Il n'est plus mort. Ah, je savais bien que j'allais l'éveiller. » Monsieur Lecoq se retourna. Il déposa Fanchette assez brutalement sur le carreau et croisa ses bras sur sa poitrine en regardant le colonel. « Voilà de la jolie besogne, » dit-il. André s'agitait sur sa couche. Les deux empreintes laissées par les doigts de Fanchette tranchaient maintenant en pâleur au milieu de sa joue où remontait un peu de sang. Le colonel fixa M. Lecoq d'un coup d'œil qui valait de longues phrases. Puis, appelant sur sa physionomie docile un air de profond contentement, il s'écria « Un médecin, l'amitié, sur le champ, vos jambes à votre cou, s'il vous plaît. L'enfance a de ses inspirations, notre petite Fanchette a produit un miracle. » Fanchette riait et pleurait « Va-t-il parler maintenant ?» Puis elle répétait dans son triomphe délirant « Je savais bien, je savais bien. » Elle s'enfuit tout à coup comme un trait. « Suis-la, » ordonna le colonel. « Faut que l'aille au diable, » gronda Lecoq. « Où tout cela va-t-il nous mener ?» Les yeux d'André Ménotte essayaient de s'ouvrir. Le colonel mit un doigt sur sa bouche et s'approcha du lit. Si les paupières d'André se fussent soulevées en ce moment,